20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. La révolution que vit actuellement l'archéologie est-elle liée à la technologie ? Pour partie certainement, et comme de nombre de disciplines, cette révolution passe curieusement par l'imagerie scientifique. En quelques décennies, l'archéologie a surtout changé de paradigme, abandonnant les fouilles au mètre carré pour ouvrir des surfaces considérables, 100, 200, 300 hectares, donnant ainsi une autre vision du passé. Pour autant, notre sujet ne portera pas sur quelques fouilles d'archéologie préventive qui œuvrent à la sauvegarde du patrimoine face à l'aménagement du territoire, mais sera bien plus exotique, au cœur de la forêt dense du Guatemala, dans une des plus brillantes sociétés de Mésoamérique, la culture maya. Il est américaniste, mieux mayaniste, un néologisme qui désigne tout à la fois les adeptes de croyances précolombiennes New Age comme les archéologues spécialistes de la civilisation maya. Philippe Nondedeo, bonsoir.
Bonsoir.
Archéologue chargé de recherche au CNRS, vous avez la direction d'un très vaste programme de fouilles dans la cité maya de Nahashtun, mission qui, en 2018, a reçu le prix d'archéologie de la Fondation Chino del Duca de l'Institut de France. Philippe Nondedeo, à quelques kilomètres de la frontière mexicaine, dans le Petén guatémaltèque, Nahashtun est-elle une cité perdue, engloutie, par essence oubliée ?
Oui, on peut le dire de la sorte. C'est une cité pour laquelle on avait très peu d'informations, une des dernières grandes capitales du monde maya à n'avoir pratiquement pas fait l'objet de fouilles et de recherches. Et lorsqu'on est arrivé sur le site en 2010, on avait vraiment affaire à une pratiquement un blanc sur la carte et tout à construire, tout à écrire sur l'histoire de cette cité dont on savait par définition qu'elle avait joué un rôle important dans la géopolitique des basses-terres mayas.
Alors oui, nous sommes dans les basses-terres et cette ville de Nahashtun aurait été découverte en 1922.
Oui, c'est ça. En fait, en 1922, il y a une première expédition qui a été menée par l'archéologue Sylvanus Morley qui s'est rendu sur le site. Bon, vous aviez toute une série de campagnes de chicleros, donc des petits paysans qui allaient arpenter l'ère maya à la recherche de la gomme à mastiquer qui était la base du chewing-gum à l'époque et qui étaient confrontés à des découvertes de cités et qui avaient donc averti donc la Carnegie Institution à laquelle Morley faisait partie, mentionnant la découverte de cités importantes et notamment la présence de stèles. Et c'est comme ça que Nahashtun a été, disons, l'objet d'une première visite en 1922 et qu'une première publication très rapide a été faite sur l'histoire et l'importance de cette cité.
Est-elle, comme je l'ai lu, la dernière cité de l'âge d'or maya ? Ou est-ce que tout ça ne sont que des belles phrases ?
Non, on peut presque le dire. C'est une des dernières cités vraiment importantes, des cités qui ont compté dans l'histoire maya à faire l'objet de recherches importantes, intensives et extensives qui permettent d'éclairer un nouveau pan de l'histoire de la civilisation maya. C'est assez vrai, même si on n'est jamais à l'abri de découvertes nouvelles et futures de grandes cités qui, pour l'instant, n'auraient pas fait l'objet de recherches encore détaillées. Mais c'est vraiment une capitale de région qui méritait d'être investiguée.
Quelle est sa chronologie ? Elle appartient visiblement à ce qu'on appelle la période classique.
Oui, alors c'est une cité qui n'a pas d'ancienneté, disons que son occupation ne remonte pas à la période ancienne de la civilisation maya, c'est-à-dire le préclassique, c'est-à-dire qui remonte en gros de 600 avant jusqu'à 150 après Jésus-Christ. C'est une cité vraiment qui se développe, disons, juste après la chute des grandes cités de la région de Mirador, c'est-à-dire aux environs de 100, 150 après Jésus-Christ, et qui va se développer durant tout le premier millénaire et disparaître aux environs de 950, 1000. On a maintenant des informations qui remontent jusqu'à 1100 après Jésus-Christ, qui seraient vraiment les dernières marques d'une occupation de la cité.
Vous n'avez aucune trace auparavant. On serait donc sur une sorte de projet, je vais dire, de ville neuve, un peu dans le sens mésopotamien. Là, on décide de créer une ville ?
Alors, on a des bribes d'occupation antérieures à l'avènement de la cité, avec des petits hameaux qui sont occupés, mais c'est 3-4 maisons dispersées sur plusieurs kilomètres carrés. Et aux environs de 100-150 après Jésus-Christ, là, on a vraiment l'installation d'une petite élite qui va agglomérer, qui va capter et attirer toute une population qui va venir se masser autour des premiers ensembles résidentiels et premiers ensembles publics. Et réellement, l'essor de la cité se déroule aux environs de 300-350 après Jésus-Christ, lorsque là, on a les premières traces de l'installation d'une dynastie royale dans la cité. Et là, on change de registre, on change de niveau, la cité devient vraiment quelque chose de structuré, avec là encore une absorption de populations qui, au-delà, auparavant vivaient en périphérie, qui viennent, s'agglutinent, s'agglomèrent autour des centres politiques, des centres publics qui se créent à travers les premières grandes places centrales.
Et là, à ce moment, il y a une sorte de projet politique ou pas du tout ?
Oui, très vite. Déjà, on a affaire à une dynastie, et là peut-être que j'anticipe un petit peu, qui s'établit donc aux environs de 325-330 après Jésus-Christ, qui est la dynastie de la chauve-souris, une grande dynastie dont on pensait jusque-là, c'est-à-dire on pensait jusque dans les années 2012-2013, c'est-à-dire il y a très peu de temps, qu'il s'agissait d'une dynastie à portée régionale qui n'avait pas de siège, qui n'avait pas de lieu vraiment d'origine. Et là maintenant on sait que cette dynastie a comme lieu d'origine la cité de Nachtoun. C'est pas une dynastie, disons, à portée régionale, mais que même si elle a eu toute une espèce de tentacule qu'elle va développer à l'échelle régionale pour construire une espèce de territoire d'influence qui va être très large, bien sûr en lien avec Tikal, puisque Nachtoun et Tikal sont deux cités qui vont évoluer de pair dans l'histoire des deux concerts, dans l'histoire de la civilisation maya. Donc cette cité va vraiment là se structurer à cette période, aux environs de 150-200 après Jésus-Christ, et avoir de suite une ambition régionale.
Aujourd'hui, la ville est mangée, avalée par la forêt. Il ne semble plus rien subsister quand on arrive sur le terrain.
Lorsqu'on arrive sur la cité, et c'est ce qui peut parfois, disons, surprendre les rares touristes qui nous visitent, parce qu'il faut bien le dire, c'est une cité oubliée parce qu'elle se trouve vraiment très reculée dans la forêt. Le premier village est, enfin, on le dit de façon anecdotique, est à 80 km, mais en fait, on compte en heures, c'est-à-dire que le premier village se trouve à 11 heures de pick-up du site. Donc, c'est pas à la portée de tous les touristes. Et c'est vrai que lorsqu'on a des personnes qui nous visitent, elles sont un petit peu surprises de voir qu'il n'y a pas de monument visible, pas d'édifice qui soit conservé en pied, excepté deux ou trois temples. La plupart se trouvent sous la végétation et surtout sous les pierres d'effondrement des édifices. Et il faut, dévoiler tout ça et puis faire renaître l'histoire de la cité à travers ces fouilles.
Donc, vous êtes à 3 km à peu près de la frontière mexicaine. Ça a été probablement un projet assez dur d'investir donc cette région, cette fouille.
Oui, ça a été très compliqué. D'ailleurs, on a commencé par une mission d'évaluation pour essayer de bien contrôler tous les paramètres logistiques avant de monter ce projet donc en lien avec les affaires étrangères. Parce qu'il y avait là la nécessité de construire un campement, une base vie dans laquelle aller vivre pendant 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois suivant les saisons, de 50 à 80 personnes, donc 50 ouvriers plus le personnel scientifique. On est en gros 30 personnes par an, donc il fallait les conditions logistiques, l'approvisionnement en eau, en nourriture pour toutes ces personnes durant ce laps de temps qui est quand même assez long dans ce milieu fermé, en pleine forêt tropicale, et notamment la question aussi des communications à travers Internet, antennes satellitaires, etc., pour des questions même de sécurité.
Et oui, l'archéologie, c'est aussi de la logistique. Nachtoun signifierait la pierre lointaine en langue maya ?
Alors oui, c'est donc cet archéologue américain, Sylvanus Morley, qui a donné ce nom à la cité, Nachtoun, Nach qui veut dire lointain, et Toun qui est la pierre pour la stèle, puisque la cité compte pratiquement 70 monuments, donc c'est la présence de ces monuments et en nombre atteste déjà de l'importance politique de la cité. Et donc ce Sylvanus Morley qui a découvert énormément de cités, qui a visité beaucoup de sites, qui est notamment celui qui est venu quelques années plus tôt à Mirador, qui est pas très loin de Nachtoun, et a considéré que la cité était vraiment la plus difficile d'accès qu'il ait jamais eu à visiter. C'est pour ça qu'il a donné ce nom de pierre lointaine, puisque quel que soit le lieu par lequel il essayait d'atteindre le site, ça lui paraissait extrêmement compliqué.
Vous suivez aussi, bien sûr, la dynastie ancienne de la chauve-souris, jusqu'en visiblement 760 de notre ère, date de la dernière inscription actuellement connue.
Alors, c'est une dynastie, effectivement, qui a commencé aux environs de 325. En tout cas, ce sont les premières attestations, les plus anciennes dont nous disposons pour la cité. Et les dates les plus récentes, maintenant, c'est plus 760, c'est 790, puisque il y a quelques mois, on vient de déchiffrer une nouvelle date sur une stèle assez tardive qui nous remonte, disons, l'histoire jusqu'à aux environs de 790. Mais disons que traditionnellement, on considérait qu'entre 750 et 800, c'était la fin de la dynastie royale de la cité. Donc, on est toujours dans le même laps de temps.
Pourquoi ce nom de chauve-souris? On aura aussi, visiblement, la dynastie du serpent et autres. Pourquoi toujours ces animaux?
C'est quelque chose qui a eu beaucoup d'impact sur les sociétés. Et alors, les chauves-souris sont un animal nocturne très important dans les régions tropicales. Quand on fouillait quelques années auparavant à Balamkou, on voyait par exemple des dizaines de milliers, voire des millions de chauves-souris qui sortaient d'un espèce de puits naturel tous les soirs à la tombée de la nuit et sur des colonnes qui partaient sur des kilomètres et des kilomètres. C'était vraiment des spectacles extraordinaires. Donc, ça a pu avoir un impact sur les populations de la même manière que ça a un impact sur nous encore actuellement.
Que sait-on de son histoire? L'histoire, donc, bien sûr, de cette ville. Ce qui est visiblement incroyable, c'est que l'on a beaucoup de choses.
Oui, on commence à avoir beaucoup de choses. Et encore, si on comparait l'information dont on dispose par rapport à la quantité de monuments et par rapport au peu de textes qui nous sont parvenus, étant donné l'érosion des stèles, puisqu'il faut rappeler que toutes les inscriptions sont inscrites sur des monuments en pierre, et c'est de la pierre calcaire, donc très friable, très fragile et très sensible à l'érosion, notamment des pluies qui sont chargées de carbone et qui dissolvent très rapidement la pierre calcaire. Et malgré tout, on a une information assez importante du rôle de la cité. Alors, ce rôle de la cité, on pouvait déjà le mesurer dès les premières fouilles par la continuité de l'occupation et de la prospérité de la cité tout au long de son histoire. Et on pouvait se dire, une cité qui, au nord, est encadrée par Calakmul, qui est la grande cité du classique récent, et au sud, par Tikal, qui est la grande cité du classique ancien, et d'avoir une cité entre les deux, qui puisse avoir un développement, un essor, une prospérité continue, c'est vraiment déjà la marque en soi d'une cité qui avait une habileté politique pour s'accommoder de ses voisins qui étaient vraiment encombrants et puis omnipotents dans la région. Et alors ça a été prouvé par l'épigraphie lorsqu'on a pu commencer à étudier les monuments et se rendre compte du rôle de la cité dans notamment la prise et la conquête de Tikal, puisque la cité de Nachtoun a été alliée des guerriers Teotihuacan qui sont venus, et là on est en 378 après Jésus-Christ, qui sont venus depuis Teotihuacan, qui se sont alliés avec plusieurs cités mayas, dont Nachtoun, dont on le sait maintenant à présent, et qui vont fondre sur Tikal, renverser la dynastie et mettre sur le trône de Tikal une dynastie à la fois mi-maya, mi-d'origine Teotihuacan. Et à partir de ce moment-là, avec la nouvelle dynastie qui va s'installer sur le trône de Tikal, vous allez avoir une alliance sacrée très forte qui va se mettre en place entre Nachtoun et Tikal. Et à partir de ce moment-là, la cité va se métamorphoser, c'est-à-dire Nachtoun va devenir vraiment une capitale à échelle régionale, à portée vraiment régionale, et va diffuser son influence dans tout le nord, disons, des basses terres centrales. Pour simplement vous donner une ordre d'idée, Nachtoun va soumettre la cité de Calakmul, qui est une cité beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante que Nachtoun, parce que Nachtoun avait derrière elle la puissance de Teotihuacan et la puissance de Tikal comme alliés pour justement étendre l'influence de Tikal dans le nord du Pétén et dans le sud du Campeche.
Cette victoire de Nachtoun va alors changer bien sûr le destin de la cité. Cela se voit dans la ville, dans l'architecture par exemple?
Oui, oui. Alors ça se
Vous
voit.
Vous avez un changement?
Oui, ça se voit très nettement sur plusieurs aspects. D'abord la culture matérielle. C'est-à-dire on va avoir à ce moment-là une influence très forte de Teotihuacan. Alors bien sûr très forte, il faut mesurer mes propos, mais on va avoir toute une série de biens de prestige, de matières premières qui viennent directement du haut plateau central mexicain, comme de l'obsidienne verte, comme des éléments de décor, notamment sur les temples et les édifices, qui sont des éléments de décor, on dit en talud tablero, qui sont typiques de Teotihuacan, et on va en avoir 5 exemplaires différents à Nachtoun. On va avoir de la céramique qui vient de la région de Puebla Cholula, des choses qui n'existaient pas jusque-là, et surtout une influence très forte de Tikal. Donc la question qu'on se pose, est-ce que les liens avec Teotihuacan sont des liens directs, ou bien est-ce que ce sont des liens à travers Tikal? Puisque par ailleurs, on a beaucoup de contacts avec Tikal, une influence très forte de Tikal, et notamment des sites qui sont sous le giron de Tikal et qui sont voisins de Nachtoun. Bon, il y a d'autres cités comme Rio Azul, par exemple, dont on a des éléments d'influence présents à Nachtoun. Donc on a en fait un grand territoire contrôlé par Tikal, dans lequel Nachtoun s'insère, et dans lequel Nachtoun va également échanger avec chacun des partenaires qui font partie de ce vaste territoire de Tikal.
France Culture,
Carbone 14,
Vincent Charpentier.
Je reviens sur les échanges des élites. L'échange de biens de prestige est très important dans la société maya.
Oui. Biens de prestige et matières premières. C'est le fondement de la société. C'est-à-dire que ce qui va distinguer les élites des classes paysannes, c'est l'accès aux biens de prestige, aux matières premières.
Et le contrôle, du coup.
Et le contrôle, bien sûr. À travers les échanges, c'est le contrôle surtout qui se joue. Et biens de prestige et matières premières qui vont ensuite être redistribués aux populations subordonnées, parfois en échange de services, en échange de travaux, etc. Donc c'est vraiment ce qui va distinguer, je pense, le peuple de l'élite, cet accès et ce contrôle des matières premières. Et c'est pour ça qu'à la fin du classique, donc la fin du classique récent, classique terminal, au moment de l'abandon, il y a peut-être un phénomène comme ça de modification des axes d'échange, des routes commerciales, qui peut avoir affecté les grandes cités des basses terres centrales qui n'étaient plus aussi bien approvisionnées. Et du coup, les élites perdent l'élément de différenciation qu'elles avaient vis-à-vis des familles et des classes sociales subordonnées qui étaient sous leur coupelle.
Du champ ostentatoire. En tout cas, comment peut-on imaginer la cité ? Tout d'abord avec un cœur monumental de 25 hectares ?
Oui, c'est ça. En gros, on est sur 25-30 hectares qui serait l'épicentre politico-public de la cité, avec donc les grandes places centrales, les pyramides, les temples, les ensembles palatiaux, les jeux de balles, etc. Donc tout ça forme un premier noyau. C'est vraiment le cœur politique de la cité. Tout autour, on a donc les zones résidentielles, à la fois de l'élite et puis des, disons, de la classe sociale un petit peu intermédiaire. Et on imaginait plus loin déjà les périphéries, composé de zones rurales, avec un habitat beaucoup plus lâche, beaucoup plus distendu, et dans lequel on allait trouver des champs cultivés, extensifs, parfois à perte de vue.
C'est donc au cœur que, bien sûr, se trouve la Grande Pyramide, mais aussi peut-être des jeux de balles.
Oui, alors on a très peu de jeux de balles. On a pour l'instant qu'un seul jeu de balles qui a été identifié dans la cité, donc sur la place centrale, à côté d'un groupe qu'on appelait anciennement un groupe astronomique. Donc on a une espèce de complexe. Vous avez souvent le groupe astronomique, puis le jeu de balles, puis l'ensemble palatial. Donc tout ça forme un ensemble assez cohérent qui date du classique ancien, du moment où le site est à son apogée politiquement. Et ensuite, donc, tout autour, les périphéries et les zones résidentielles qui vont commencer à se développer.
En 2018, vous auriez fouillé un exceptionnel rituel ?
Oui, un rituel qui est assez intéressant et qui révèle encore beaucoup de surprises parce qu'il est en cours d'analyse. On a donc un grand temple dans l'acropole, puisque dans la cité, nous avons une acropole funéraire qui est un lieu où vont se masser, en fait, toutes les tombes des grands rois pour une période bien précise. Donc, le classique ancien, en gros, de 300 jusqu'à 500-550 après Jésus-Christ, au cœur de l'un de ces temples, pas n'importe lequel, dans l'axe central de cette acropole, on a trouvé un dépôt de tessons de plusieurs milliers, à peu près 4000 tessons qui ont été donc disposés sur le sol des pièces, juste au-dessus de l'une des tombes royales. Et à l'intérieur de ce dépôt, il y a différents foyers qui ont été réalisés. Et la question est de savoir si ces foyers sont contemporains de la disposition de tous ces tessons. On a à peu près 400 récipients qui ont été cassés sur place, ou bien si ces foyers-là ont été réalisés bien après l'abandon de la cité. C'est-à-dire qu'on aurait un événement en fait avec plusieurs épisodes et réutilisation d'un même lieu pour différents types de rituels espacés à travers le temps et peut-être même des rituels qui remontent au 11e, 12e siècle après Jésus-Christ.
Donc vous connaissiez vos 25 hectares de centre-ville, mais depuis 2017, vous prospectez à l'aide d'une nouvelle méthode révolutionnaire que l'on appelle le LIDAR. De quoi s'agit-il ?
C'est ça. Alors depuis 2010, début du projet, on travaille sur une zone qui fait 2,5 km², sur laquelle donc on a campagne après campagne, c'est-à-dire environ 6 saisons de fouilles avec 2 archéologues, des ouvriers, pendant lesquels on a cartographié précisément tous les vestiges, toutes les structures. Donc un travail assez intense. On a à peu près peut-être 1200 structures en tout sur l'ensemble de ces 2,5 km, qui nous donne donc une bonne image du cœur monumental et de la zone résidentielle. Et on pensait avoir plus ou moins défini les limites du site à partir de ce travail de prospection. Et là, depuis donc 2016, avec la mise à notre disposition des premières images LIDAR qui portent sur non plus sur 2,5 km, mais sur 135 km². Alors là, on a une vision totalement différente, bien plus vaste de la cité et de son territoire de contrôle, ce qu'on va appeler l'Interland de Nachtoun.
Ça marche comment le LIDAR ?
Alors le LIDAR, c'est un petit appareil, un petit boîtier qui est placé sous une avionnette, sous un hélicoptère, sous un drone, suivant les cas de figure, et qui va bombarder sur le sol des centaines de milliers de petites pulsations laser qui vont être envoyées sur le sol. Et l'appareil va calculer, en fait, en fonction du temps de parcours de l'émission jusqu'à au retour dans le boîtier, disons, la position exacte de chacun des points et l'altitude. Alors, tous ces points n'aboutissent pas au niveau du sol, puisque c'est ça qui nous intéresse, nous, avoir une couverture du sol. C'est-à-dire, le LIDAR permet d'avoir une cartographie du sol, une radiographie du sol avec tous ses aménagements, tous ses vestiges, et en retirant d'un seul coup toute la végétation. Donc, c'est ça le principal intérêt pour nous. C'est-à-dire que si on faisait une photo aérienne, on verrait toute la végétation. Or là, on est capable de retirer la couche superficielle, donc qui correspond à la canopée, pour avoir accès directement aux données du sol et donc le sursol, c'est-à-dire tous les vestiges, tous les aménagements qui vont apparaître. Bon, on peut pas préciser toutes les stèles puisque ça serait abusif. Mais à partir donc de cette couverture, on peut commencer à réfléchir sur l'organisation de l'habitat à grande échelle.
Donc vous arrivez, grâce à une imagerie, à définir des structures. Ensuite, j'imagine qu'il faut aller vérifier quand même sur le terrain de quoi il s'agit.
Oui, c'est ça. Alors, on a eu 33 milliards de points qui ont été envoyés sur Nashtun. Et de ces 33 milliards, il y a à peu près 165 millions de points qui ont abouti. C'est-à-dire qu'il y a une proportion très faible. C'est-à-dire, l'appareil va envoyer peut-être 600 000 points par seconde. Et de ces 600 000, il n'y en a qu'une toute petite partie qui reviennent. Et la plupart, en fait, vont taper contre des feuilles, contre des branches. Et très peu vont arriver jusqu'au sol. Mais comme il y a tellement de points qui sont bombardés, forcément, certains arrivent à traverser la canopée et toucher le sol et rebondir. Et à ce moment-là, on arrive à avoir une première image. Donc, on a des modèles numériques qui nous permettent de reconstituer à partir de tous ces points qui vont être disséminés dans l'espace, une espèce de géographie. On a comme ça un modèle numérique qui va apparaître. Et oui, à ce moment-là, on commence à avoir des informations sur les structures qui vont être présentes, les formes d'organisation, etc.
Ce que vous voyez, ce sont des réseaux de canaux, des levées de terre, des centres secondaires, ce genre de choses?
Alors, on a l'avantage dans ce projet d'être un projet pluridisciplinaire, ce qui fait que on a à la fois des équipes d'archéologues, des équipes de géographes. Donc, on a étudié cette imagerie dans les deux aspects, les deux disciplines, c'est-à-dire que les archéologues se concentrent sur tout ce qui est vestiges donc d'architecture, donc monticules, temples, pyramides, ça peut être des carrières, ça peut être aussi des chaussées, puisqu'on a énormément de chaussées qui ont été découvertes grâce au LIDAR. Tandis que pour la partie géographique, la partie environnementale, on va s'intéresser à tout ce qui va être canaux, tout ce qui va être terrasses, tout ce qui va être réservoir, tout ce qui va être digue, tout ce qui va être aménagement, soit de type hydraulique, soit de type agraire, pour exploiter donc les ressources en eau, les ressources en sol.
Donc les quelques 60 000 structures que vous avez découvertes représentent un paysage tout autre, une sorte d'espace ouvert et cultivé qui sont aujourd'hui totalement cachés par la forêt tropicale.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, pour prendre quelques exemples, nous sommes passés sur des zones de terrasses qui sont absolument invisibles à l'œil nu. Nous sommes passés dans des dépressions qui sont donc temporairement inondées, dans lesquelles il y a des canaux, et ces canaux ne sont pas visibles à l'œil nu si on ne sait pas qu'il y en a. De la même façon, on est passé sur des chaussées qu'on ne voit pas et qui sont pourtant bien là et qui courent sur des dizaines de kilomètres de long. Donc il y a vraiment une information nouvelle qui est très difficile à mesurer, à percevoir sur le terrain, du fait donc de cette végétation dense, du fait que par exemple à la saison sèche où on fouille en mars-avril, c'est le moment où les feuilles commencent à tomber, donc du coup on a un sol qui commence à se tapisser de feuilles et qui dissimule petit à petit les vestiges qui sont vraiment affleurants. Donc c'est très compliqué de repérer ces éléments-là, surtout que ce sont des éléments ténus, et donc le LIDAR nous permet de voir des choses à grande échelle, des systèmes qui autrement nous passeraient complètement inaperçus.
En général, les archéologues mayanistes s'intéressaient surtout bien sûr au cœur de ville. Ce que vous publiez dans la revue Science, c'est justement une vision désormais totalement différente et totalement renouvelée.
Oui, de ce point de vue-là, oui, effectivement. La technologie LIDAR a été, disons, appliquée à la zone Maya aux environs de 2010. Ça a été les premiers gros travaux. Les archéologues ont commencé par relever uniquement le cœur des cités qu'il travaillait, puisqu'il disposait de financement pour quelques kilomètres carrés. Et il n'y a que récemment, c'est-à-dire dans les années 2015, 2016 et puis 2017, qu'il y a eu des programmes qui sont sortis du cœur des cités pour se consacrer à ce que je disais tout à l'heure, l'Interland, c'est-à-dire vraiment les territoires de contrôle de ces grandes cités et voir un petit peu comment les choses s'organisaient vis-à-vis du centre et des périphéries, c'est-à-dire des anciennes zones urbaines et puis des zones rurales. Et là, il y a vraiment des changements de paradigme qui commencent à apparaître dans la recherche.
Ces prospections LIDAR ne montrent-elles pas surtout que les cités mayas étaient bien plus peuplées que nous pouvions l'imaginer ?
Oui, alors ces prospections, elles montrent deux choses. D'une part, une densité de population qui est bien supérieure à ce qu'on a pu toujours imaginer. Et deuxièmement, une exploitation du milieu qui est bien plus considérable, bien plus développée, bien plus dense, bien plus intense. Et donc un contrôle, une gestion des ressources. Vraiment, alors là, c'est une révolution qu'on a pu l'imaginer par le passé.
Vous aviez combien de structures ? 5, 10, 15, 20% sur le terrain, non relevées par le LIDAR ?
Dans la zone que nous avions couverte à travers des prospections donc pédestres traditionnelles, il nous a manqué très très peu de structures. Si je dis peut-être 5 à 10 structures, ça serait le maximum. En revanche, dans toutes les périphéries nouvelles, là, on passe de 1000 à 12 000 structures. Donc là, ça c'est considérable, mais en même temps, c'est un territoire pour lequel on avait très peu d'informations. Par exemple, on connaissait 2 ou 3 réservoirs d'eau douce, donc qui permettent aux populations de traverser la saison sèche. Maintenant, on en a plus de 70 qui sont apparus, avec pratiquement un réservoir tous les kilomètres et demi. Mais c'est surtout les aménagements du paysage qui sont révolutionnaires. Et imaginez, nous avons plus de 18 000 terrasses qui ont été recensées, et je pense qu'on n'a pas tout, puisque ce travail LIDAR est un travail, disons, assez ingrat, et plus on travaille sur la visualisation, plus on va trouver de vestiges nouveaux, différents. Donc il y a vraiment, pour vous donner une idée, on est sur 500 km de long, de terrasse, si on mettait tout ça en cumulé.
En tout cas, il ne faut pas non plus oublier les fouilles. Sur le terrain, vous allez réinvestir le cœur de la cité, puisque vous allez fouiller l'acropole et les grandes tombes de souverains qui se développèrent à peu près vers 300 après notre ère.
Oui, c'est ça. On essaie à la fois de s'intéresser donc au territoire de Nachtoun, à l'Interland, c'est-à-dire à la gestion du territoire à grande échelle depuis la capitale, cœur de la cité, et puis également ce qui se passe dans la cité pour essayer de mettre en rapport les éléments, les données d'ordre épigraphique sur l'histoire, la généalogie de la cité, et puis les éléments d'ordre culturel, c'est-à-dire les marques matérielles de la présence de ces souverains au cœur de la cité.
Une dernière question. Nachtoun est abandonnée à la fin du premier millénaire de notre ère. La ville est alors avalée par la forêt. Quelles sont les causes de cet effondrement ?
Alors, les causes de l'effondrement, c'est toujours quelque chose de délicat. Ce qu'on peut dire, c'est que cet effondrement n'est pas lié à la disparition de la royauté dans la cité, puisque cette cité présente l'intérêt d'avoir une continuation de son occupation pendant pratiquement 2 siècles, 1 siècle et demi à 2 siècles après la chute de la royauté. Donc ça, c'est un phénomène assez nouveau. Donc la cité se réorganise avec des familles nobles qui prennent le pouvoir à la place de la royauté. Mais malgré tout, aux environs de 900-950, les choses commencent à mal tourner et la cité est petit à petit abandonnée, et jusqu'aux environs de 1000-1100, et là on a quelques petites réoccupations sur les places centrales qui se produisent avec des petits habitats de fortune qui se mettent en place. Mais la question qui va se poser maintenant face à cette exploitation intensive du milieu est de savoir si éventuellement il n'y a pas eu une surexploitation de celui-ci à travers tous ces systèmes d'irrigation, tous ces systèmes de terrasses, ou bien s'il y a eu un impact du milieu et notamment tous ces phénomènes de sécheresse qu'on commence à observer aux environs de 760 et qui continuent pratiquement jusqu'au 10e siècle.
Philippe Nonadeo, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Claire Levasseur et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture sera consacré aux cabanes érigées en os de mammouth en Ukraine.